Le dossier ce matin nous ramène à Bukavu. Jean Kassami nous parle de la présentation mardi du rapport national sur le développement humain 2016 de la RDC. Le rapport vise l'amélioration des conditions de vie de la population à travers une politique de décentralisation efficiente. Suivez.
L'économiste national au PNUD Jean Amisiki a présenté le rapport national sur le développement humain 2016 a démontré que la décentralisation est un levier qui booste le développement économique à la base. Si un pays veut se développer, il doit nécessairement s'appuyer sur son processus de décentralisation, dit l'expert Jean Amisi.
La vision de développement ou les ambitions de développement doit être définie par la population et les autorités politiques du Sud-Kivu. C'est eux qui savent ce qui est nécessaire et ce qui est bon. Mais de prime abord, je peux dire qu'il y a deux, trois axes sur lesquels le Sud-Kivu peut s'attacher pour pouvoir assurer le bien-être de sa population, disons une croissance inclusive. Il faut développer des infrastructures de communication, parce que ces infrastructures vont soutenir le développement des échanges et la croissance économique.
Le ministre provincial du plan, Miller Ruimbika, promet de capitaliser ses théories purement techniques du PNUD pour élever le niveau de vie des habitants du Sud-Kivu.
Notre ministère s'engage d'abord à enlever cette mentalité de penser que le rapport c'est pour le PNUD. C'est vrai, c'est le PNUD qui a donné des moyens et c'est malheureusement le PNUD qui l'a présenté. Ça, nous voulons inverser les choses. Le PNUD peut accompagner, il peut donner des moyens, mais que le rapport soit présenté par le gouverneur de province ou par le ministre des tutelles ou quelqu'un d'autre.
L'Assemblée provinciale représentée par les membres de son bureau voit en ses rapports un modèle d'inspiration pour légiférer au profit du bien-être de la couche populaire de la province. Le vice-président du bureau, Gilbert Ngongo.
Ça me remet en cause et je me dis que c'est dans tous les domaines que nous devons redéfinir notre manière de penser les textes, les édits provinciaux pour qu'ils touchent de doigt les problèmes de la société, concevoir des textes qui touchent les vécus des gens pour que l'on voit cette croissance autant vantée être inclusive.
Une autre personnalité inspirée par le rapport national sur le développement, c'est bien le bourgmestre de la commune d'Ibanda à Bukavu, Evariste Ntaitunda.
Vous savez que pour le moment, nous avons les difficultés de continuer nos œuvres de développement parce que le peu que le gouvernement a loué comme rétrocession ne vient plus. Les communes sont en train de vivre avec le 200 francs récoltés dans nos marchés qui n'est pas en mesure même de payer le personnel.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Revue de presse.
Bonjour, Consomoussière Africa.
Très bonjour, Jocelyne Moussopondé. Bonjour à vous, très chers auditeurs. Crise politique en RDC, après la claque botswanaise, Joseph Kabila trouve du renfort chez Nangangwa, notre successeur précédé. En effet, après les critiques acerbes du Botswana qui lui ont demandé publiquement de quitter le pouvoir, Joseph Kabila peut se consoler du soutien du Zimbabwe. Les confrères citant le communiqué conjoint qui a sanctionné la fin de cette visite de deux jours, le président zimbabwéen a salué les efforts du gouvernement congolais et de la Commission électorale nationale indépendante à propos du processus électoral pour son aboutissement dans un climat apaisé. Aussi, après Denis Sassou Nguesso, João Lourenço, Ali Bongo et Emmerson Mnangagwa, Joseph Kabila, Antonio Guterres et Moussa Faki. Ici, le quotidien L'Avenir nous apprend que le chef de l'État, Joseph Kabila, vient de donner son accord pour l'avenir dans son pays du patron de l'ONU, Antonio Guterres, et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed. Toutefois, les confrères soulignent qu'aucune date précise n'a été encore arrêtée pour cette visite. Et Tams précédé d'ajouter, le président Joseph Kabila a donné son accord pour une visite conjointe à Kinshasa du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed. Information que le confrère a puisée à l'agence France Presse. Au FPI, Patrice Kitebi, traduit en justice, c'est cet autre sujet à lire notamment à la une des scoops RDC.net. À en croire ces journaux en ligne, les directeurs à deux plaignants devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Il s'agit donc des deux agents du fonds de promotion de l'industrie licenciés récemment, Junior Bakokela et Calvin Mingachanga Kwete. Les premiers traînent son directeur général devant la justice pour imputation dommageable et licenciement abusif, tandis que les seconds se plaignent pour usage des faux, abus de pouvoir, imputation dommageable et dénonciation calomnieuse à deux reprises. Renseigne notre confrère, le DG du FPI est déjà convoqué pour appel. Vendredi 23 février, il a délégué ses avocats à qui le parquet a signifié qu'il ne s'agit pas d'une affaire au civil, mais plutôt pénale, qui exige la présence physique de l'accusé. Mardi 27 février, Téné Patrice Kitebi ne s'est pas encore présenté hier mercredi non plus. Selon les informations que détient Scoop RDC.net, le parquet a établi une troisième et dernière convocation adressée à Patrice Kitebi. S'il ne répond pas, il lui sera établi un mandat d'amener. Scoop RDC.net rappelle que dans son processus de réforme du SPI, entrepris depuis sa nomination en novembre 2016 à la tête de cette entreprise, Patrice Kitebi a procédé à la rétrogradation d'une quarantaine des agents ainsi qu'au licenciement d'une trentaine seulement. On lui reproche de faire la chasse aux sorcières, une sorte de purge des anciens collaborateurs de son prédécesseur. Constantin Mbengile rapporte Scoop RDC.net.
L'invité. L'invité de Radio Capi ce matin est Julien Frédéric Arné, coordonnateur humanitaire adjoint en RDC. Les Nations Unies organisent en avril prochain une conférence internationale d'appel des fonds pour répondre à la crise humanitaire dans ce pays. Julien Frédéric Arné nous en parle dans cet entretien accordé à Jean-Pierre Elali Ikoko.
Frédéric Arné, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de sillonner la République démocratique du Congo, du moins les parties qui sont en conflit. Quelle est à l'heure actuelle la situation humanitaire en RDC pour qu'une conférence de haut niveau soit organisée?
Bon, la situation de la population dans ces zones-là est terrible. J'ai rencontré des femmes qui ont vécu des moments affreux, mari décapité, enfants noyés en échappant des massacres. Ailleurs, dans d'autres parties, des villages brûlés avec une population qui a peur de rentrer. Il y a des bonnes choses qui se passent en RDC, mais dans ces zones de conflit, il y a énormément de souffrance. Malheureusement, au monde, on parle pas assez des problèmes du Congo, et on a besoin de fédérer la communauté internationale et congolaise pour soutenir ces populations.
Vous avez annoncé la tenue d'une conférence internationale d'appel de fonds pour la RDC. Maintenant, les choses se précisent. Elle aura lieu en avril prochain, c'est à Genève, Suisse. Quelles sont les attentes de la coordination humanitaire en RDC et quel est le montant attendu pour faire face à la crise humanitaire en RDC?
Donc, nous visons deux choses. C'est un soutien de 1,7 milliard de dollars pour l'année 2018. Mais plus de ça, on veut mobiliser une campagne qui fédère la communauté humanitaire autour du Congo. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre de faire une conférence une fois et après ça, on ne parle plus du Congo à l'international. Il faut attirer l'attention sur les problématiques du Congo pendant la durée, pendant cette année, mais aussi l'année qui suit. Mais pas simplement dans le négatif, il faut aussi parler du courage des Congolais. Quand on va sur le terrain, les premières personnes à répondre aux besoins d'une population souffrante ou déplacée, c'est les Congolais. On va dans un village, on va voir un chef de village, on va voir un village qui reçoit des personnes qui arrivent, des nouveaux déplacés chez eux. Ils partagent leurs cases, ils partagent leurs terres, ils donnent un peu d'argent pour que ces personnes puissent aller à l'école. C'est les Congolais en premier qui répondent aux besoins de ces populations. Après ça, c'est des associations locales, c'est des organisations locales. Oui, évidemment, il y a les organisations internationales. Il y a l'ONU et d'autres qui répondent, mais c'est aussi un travail de Congolais. Et je pense que c'est très important qu'on parle à l'international du courage des Congolais, de comprendre que c'est des gens qui veulent améliorer leur vie. Il faut leur donner un coup de main, qu'on puisse avancer ensemble.
Oui, justement, vous avez parlé de déplacés. Il y en a 4 millions en République démocratique du Congo. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres conflits qui attirent l'attention des donateurs dans le monde, comme en Syrie, au Yémen et même en Irak. Et quels sont les arguments que vous, la coordination humanitaire en RDC, vous allez déployer pour mobiliser plus de 1 milliard et demi de dollars pour la RDC?
Bon, c'est un argument humain. Il y a des millions, il y a 10 millions de personnes qui ont besoin de notre soutien. Si on regarde le financement qui est alloué à d'autres crises, c'est largement au-dessus de ce qui est reçu en RDC pour des populations beaucoup moins importantes que la quantité de population qui a besoin d'un soutien ici au Congo. Donc ça, c'est un argument. Mais l'autre argument, c'est de dire que c'est des Congolais qui veulent changer leur vie. Il faut les soutenir. Et il y a des gens capables, intelligents, brillants, courageux, et avec un peu de soutien international, on peut vraiment faire des belles choses ici en RDC.
Et pour terminer, est-ce qu'on a une idée sur les participants?
Oui, tout à fait. Donc il y a une grande, on va avoir la présence de multiples pays, les Pays-Bas, l'Union européenne, mais aussi beaucoup d'autres États membres qui vont être présents, et on espère fédérer aussi beaucoup d'organisations internationales et national là-bas à Genève le 13 avril. Je vous remercie.
Julien, Frédéric et Arnaud, c'est Radio Capi-Couvoir-Metz.
Merci beaucoup.
Au Capi-Sport. Kanish Mkongo, bonjour.
Bonjour Jocelyne Moussaou, bonjour amis sportifs.
Et cette édition commence par un sport de combat, le taekwondo.
L'équipe nationale de la spécialité s'est envolée à des petites heures de ce jeudi matin pour la Tunisie. Les Congolais vont prendre part aux éliminatoires des championnats du monde prévus du 3 au 4 mars. Les premiers groupes composés de 6 athlètes masculins a quitté le pays, bien sûr. Les filles ainsi que le staff technique vont rejoindre à partir de demain vendredi. Les groupes qui est parti ce matin trouvera 2 autres athlètes déjà sur place. En Tunisie, il s'agit de Parker Bolili, la fille bien sûr en Tunisie, basée là-bas pour des formations, et Mbombo Koda qui est déjà sur place aussi pour une formation. Football à présent, la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, le football club Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi a terminé la phase de poule en marchant sur FC Océan Pacifique Dumbu Jumaï, 3-1. Hier au stade Frédéric Bassamaliba, match de la 18e journée de championnat national de football Vodacom Ligue 1 zone centre-sud. Le cheminot Luchois, déjà qualifié pour les playoffs, totalise 33 points en 18 sorties. En Boujumaï, l'équipe locale de Sa Majesté Sanga Balende s'est inclinée devant groupe Bazano, 0-1 hier au stade Chukisha dans le cadre de la 18e journée, zone centre-sud toujours. Dans la même zone, le tout-puissant Mazembe reçoit cet après-midi AC Dibumba de Chikapa dans son stade de la commune de Kamalondo. US Chunkunku accueillera Lubumbashi Sport au stade jeune de la commune de Katoka. Mazembe est en tête de ses groupes avec 40 points. Dans la zone ouest, le calendrier risque d'être perturbé avec la fermeture du stade Père Raphaël de la Quétule. Sinon, les deux matchs qui sont prévus à l'affiche cet après-midi, on aura le Racing Club de Kinshasa RCK contre FCMK, avant de suivre le match Vita Club contre Dragon Bilima. DCMP a clôturé ses rencontres avec 42 points. Notez que dans la zone est, la phase classique s'est terminée. Maniema Union est en tête avec 26 points, suivi de Montbleu 22 et DC Virunga Exego avec Dauphin Noir de Goma 20 points chacun. Compétition interclub de la CAF. Les 4 clubs congolais engagés en Ligue des Champions et Coupe de la Confédération connaissent déjà les noms des officiels de leur match des 16e de finale aller. D'abord en Ligue des Champions, le match TP Mazembe contre União Desportiva de Songo de Mozambique sera arbitré par les Gambiens Bakari Papagassama. Une rencontre prévue le mercredi 7 mars à Lubumbashi. La Vita Club qui sera reçue par Difa Hassani El Jadida. C'est le trio arbitral Sierra Leone qui va siffler bien sûr cette rencontre en Coupe de la Confédération. Les Darren Club Motema Pembe DCMP qui fera face à Deportivo Niefang de la Guinée équatoriale le 6 mars au stade de Martyrs de Kinshasa. Ce match sera dirigé par un trio arbitral nigérien. Par contre, Maniema Union qui fera face à la formation de YSM Alger le mercredi à Kindu. Ce sont les Soudanais donc qui vont arbitrer cette rencontre. C'est l'arbitre central Sabri Mohamed Fadoul.
Merci Kanish Mukongo. Le cours de change avant de terminer. Un dollar américain s'achète aujourd'hui à 1582 francs congolais et se vend à 1647 francs congolais. Fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.